Le journal vous est présenté par Olivier Bénis. Bonsoir.
Bonsoir à toutes et à tous. C'était il y a quelques minutes sur le Tour de France, l'exploit de Julian Alaphilippe qui a non seulement sauvé son maillot jaune, mais s'est imposé sur le contrôle à Montrapeau. Écoutez-le.
C'est incroyable, je suis vraiment content parce que je me suis dit, allez, t'as le maillot jaune qui te pousse et l'envie de bien faire. Fais le maximum, mets-toi à bloc pendant 15 bornes.
8 jours d'affilée en jaune, donc on reparle de cette performance dans le journal du Tour à la fin de ce journal. Yes, des Cannes, Algérie et Sénégal s'affrontent ce soir pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Match très suivi un peu partout dans le monde et notamment en France. Nous serons en direct du quartier de la Goutte d'Or dans ce journal. L'affaire Steve prend de l'ampleur près d'un mois après la disparition du jeune homme à Nantes. Plusieurs politiques veulent briser le silence du gouvernement sur le sujet. Angela Merkel, elle, recadre sèchement Donald Trump dont les tweets contre des députés démocrates ne sont pas dignes selon elle de la grandeur de l'Amérique. Tout ça, ce sera avant le téléphone sonne avec vous, Yves Decaen.
60 000 chiens et chats sont abandonnés tous les étés en France. C'est un record d'Europe. Comment arrêter ça? Comment mieux encadrer le commerce et la possession des animaux de compagnie? Vos questions, vos témoignages au 01 45 24 7000.
France Inter. C'est une finale qui va faire vibrer tout un continent et n'en déplaise à ceux que cela agace, une bonne partie de nos concitoyens aussi. Algérie-Sénégal, une rencontre pour déterminer qui va remporter cette année la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Et en France aussi, on trouve des supporters des deux pays. Bonsoir Sandrine Etoua-Hambègue.
Bonsoir.
Vous êtes dans le quartier de la Goutte d'Or, quartier parisien où l'on a suivi avec enthousiasme l'ascension de ces deux équipes. On imagine que la fièvre commence à monter petit à petit.
Et oui, je vous le confirme, hein, au klaxon des fans algériens, drapeau rouge, vert et blanc sur les capots, ces deux supportrices des Lions de la Teranga répondent à plein poumon.
Vive le Sénégal ! Vive le Sénégal qui gagne ! Vive la Teranga !
Moi, je m'appelle Awa, je suis sénégalaise, je travaille à Château Rouge. Et je sais très bien, on va aller bien chicoter. On va bien les corriger.
Ça va pas être facile, hein?
Ça va, bien sûr. C'est comme deux gouttes d'eau. Tac, tac, on les élimine.
Voilà, le vocabulaire belliqueux et la confiance affichée d'Awa n'impressionnent guère Imen et Sabrine. Pour elles, c'est clair, ce soir, les Fenech vont se promener.
Ah, mais pas de soucis, pas de, disons,
ah, nous,
eux,
blancs, nous.
Ils font que parler, c'est pour ça. Nous, on a les actions.
Ils vont gagner de toute façon, ouais,
ils vont gagner là, on y croit fort.
Moi, je suis pour Mahrez et Adam Ounes.
Moi, Brahimi.
Vous avez un pronostic pour ce soir?
2-1.
Moi, je dirais aller 3-0 pour l'Algérie.
La vérité. Là, on va les éclater, c'est sûr.
Et pour elle, ce soir, ce sera historique si la sélection algérienne l'emporte près de 20 ans après une première victoire à la CAN. Un peu, ajoute-t-elle, comme l'année dernière quand la France a remporté la Coupe du Monde 20 ans après.
Merci Sandrine Etoua-Hambègue à la Goutte d'Or avec les moyens techniques de Laurent Lucas. On n'oublie pas bien sûr donc ce qui va se passer sur le terrain entre les joueurs du Sénégal et ceux de l'Algérie au Caire. Ces derniers sont un peu inquiets d'ailleurs, Jean-Pierre Blimaud, à cause d'un changement d'arbitre. Expliquez-nous.
Ce qui fait réagir, c'est que l'arbitre évincé, Victor Gomez, a révélé récemment une tentative de corruption à son encontre lors d'une autre compétition. Il a rapidement bénéficié d'une réputation d'arbitre incorruptible, d'où de nombreuses questions un peu partout sur Internet à la suite de la nomination officielle de cet arbitre camerounais, Alioum Alioum, pour diriger la finale de ce soir. C'est d'ailleurs dans le clan algérien qu'on s'en pose le plus, car la déléguée générale de la FIFA, Fatma Samoura, qui aurait pu influencer le choix de l'arbitre, est sénégalaise, de la même nationalité que l'adversaire des Algériens. Le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, s'est défendu pour sa part de toute forme de magouille. Il affirme qu'il n'y a jamais eu de décision de la CAF pour désigner Victor Gomez. Le Camerounais Alioum Alioum, connu pour être l'un des ténors de l'arbitrage africain, sera donc bien au sifflet ce soir, assisté de deux compatriotes camerounais et d'un quatrième arbitre gabonais. Pour l'assistance vidéo, c'est un arbitre international français, Benoît Millot, qui sera aux commandes.
Coup d'envoi de cette finale de la CAN Algérie-Sénégal à 21h. Rencontre suivie également de près par les forces de l'ordre. 2500 policiers et 300 pompiers mobilisés à Paris pour assurer la sécurité de l'après-match et des dispositifs de sécurité renforcés dans plusieurs grandes villes. Où est Steve? Dans deux jours, ça fera un mois que les Nantais se posent la question, suivi notamment par de nombreux internautes, eux aussi inquiets de son sort. Le jeune homme de 24 ans a disparu le soir de la fête de la musique pendant une charge pour le moins controversée des forces de l'ordre au bord de la Loire. Et depuis, la polémique monte, enfle jusqu'à dépasser largement les frontières de la ville et jusqu'à toucher la sphère politique. Depuis quelques jours, Laurence Perron, face au silence de la majorité, les élus se saisissent de plus en plus visiblement de ce dossier.
Le ton est monté, hein, oui, depuis une dizaine de jours.
À 7h, un homme est toujours porté disparu. Le secrétaire régional du syndicat SGP Police a dénoncé une intervention scandaleuse, s'interrogeant sur sa nécessité.
On en est encore à se poser la question de où est Steve ?
Monsieur le ministre, je ne vais pas demander votre démission aujourd'hui. Parce que avec votre collègue de Rugy, j'avais dit je la demande pas, parce que quand je la demande, ils s'en vont pas, ils restent.
Ma question est simple, monsieur le secrétaire d'État. Où est-il ?
Dans l'ordre, les députés insoumis Muriel Ressiguier, Daniel Obono, Hugo Bernalicis et hier celle de la sénatrice écologiste Esther Benbassa. Le ton monte, mais désormais, l'indignation a décidé de se faire muette. La France insoumise enjoint ses députés, mais aussi tous les Français qu'ils veulent, à poster des vidéos dites « muettes d'indignation » sur les réseaux sociaux. Une vidéo où les gens se mettent en scène avec un bout de papier frappé de ces trois mots « Où est Steve ?». La maire socialiste de Nantes, elle, a interpellé dans une lettre le ministre de l'Intérieur. Johanna Roland souligne, je cite, « un usage de la force qui apparaît disproportionnée et elle réclame des investigations extrêmement rapides. Interrogé aujourd'hui lors d'un déplacement, Christophe Castaner lui a répondu assez vertement.
L'objectif n'est pas de rassurer Madame Roland, maire de Nantes, dont j'ai vu qu'elle m'avait envoyé un courrier, que je n'ai pas encore reçu, mais qu'elle a distribué à la presse. Donc je n'échange pas de courrier, je fais toute confiance dans la justice et je crois que c'est un sujet qui ne doit pas faire l'objet de polémiques parce qu'il y a des contrôles, parce qu'il y a des enquêtes et que dans notre pays, c'est l'état de droit justement qui doit toujours primer.
Au cabinet du ministre, on précise que deux enquêtes préliminaires sont en cours, une enquête administrative aussi, qu'on souhaite qu'elles aboutissent avant la fin de l'année. Les recherches dans la Loire, elles, se poursuivent.
Merci Laurence Perron et pour voir les vidéos dont vous nous parliez il y a quelques instants, rendez-vous sur franceinter.fr. C'est presque un cas d'école de débat sur la meilleure manière de faire de l'écologie, incitation ou obligation, carotte ou bâton. Sur la question des passoires thermiques, les sénateurs viennent de trancher lors de l'examen de la loi énergie et climat. Ils souhaitent que ces logements soient carrément qualifiés d'indécents et donc impossibles à louer, et ce, dès 2023. Il faut dire que l'enjeu est de taille. Plus de 7 millions de logements sont trop énergivores, Sandy Dauphin.
Oui, les sénateurs se sont montrés plus écolos que le gouvernement. Lors de l'adoption du projet de loi énergie-climat, ils ont voté donc cet amendement surprise. Les passoires thermiques sont considérées comme des logements indécents et à ce titre, interdites à la location à compter 2023. Il s'agit des logements classés F et G en bas de l'échelle du diagnostic de performance énergétique. Le but est bien sûr d'obliger les propriétaires à faire des travaux d'isolation dans les maisons et appartements pour faire des économies d'énergie. En France, 45% de l'énergie sert à chauffer les bâtiments. La nouvelle ministre de la Transition, Elisabeth Borne, s'est opposée à l'amendement des sénateurs au motif que beaucoup de vieux appartements haussmanniens, les parquets moulures cheminées des quartiers chics, seraient concernés. Or, difficile de les qualifier de logements indécent. Le gouvernement a donc atténué la portée de l'amendement. Une autre disposition précise que les copropriétés ne seront pas concernées. Cela représente tout de même la majorité des passoires thermiques. Le bras de fer n'est pas terminé. Députés et sénateurs se réunissent jeudi prochain en commission pour tenter de trouver un texte de compromis.
Merci Sandy Dauphin. Et puis pour être écologiste, il vaut mieux être sénateur que militant de terrain. Ceux de Greenpeace France devront désormais payer 1500 euros s'ils s'approchent à moins de 250 mètres d'un convoi de transport de matières nucléaires, et ce sur l'ensemble de la métropole française. Interdiction prononcée tout à l'heure par le tribunal de Paris. L'ONG a annoncé qu'elle ferait appel. Des salariés qui attaquent l'État pour son inaction face à leur patron. L'intersyndicale de General Electric vient de rendre publique une mise en demeure adressée au ministre de l'économie, Bruno Le Maire, pour qu'il fasse respecter un accord signé en 2014. Plus inquiétant encore, une autre procédure a été lancée pour danger grave et imminent sur la santé des salariés. Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail ont envoyé une lettre à leur direction du site de Belfort pour demander une enquête sur la mort suspecte de trois salariés. Parmi eux, Francis Fontana, délégué syndical Sud.
Il y a un lien pour nous entre le déclenchement de cette procédure et effectivement ces trois décès. Il y en a trois en trois semaines, alors que ce genre de décès, en général, ils sont assez rares dans l'entreprise. Et quelques semaines, voire quelques jours pour le premier, après l'annonce d'un PSE massif. Donc effectivement, pour nous, le déclenchement est en lien avec ces décès, mais également avec la situation de tension généralisée qu'on observe dans l'entreprise. C'est difficile de décrire la situation dans les bureaux, dans les ateliers. Chacun le vit un peu différemment. Il peut y avoir des tensions avec la hiérarchie, avec entre collègues. Évidemment, ça fuite souvent dans ces cas-là. De toute façon, effectivement, il y a de l'inquiétude.
Angela Merkel, elle, envoie un uppercut outre-Atlantique. La chancelière allemande a sévèrement critiqué les tweets polémiques de Donald Trump qui demandait à des élus démocrates de retourner dans leur pays. Pour elle, de telles attaques ne grandissent pas l'Amérique. Loin de là, une réplique qui suit de quelques jours celle de Theresa May, la première ministre britannique. Elle avait, elle, qualifié les propos de Donald Trump de totalement inacceptables.
Le journal de 19h. sur France Inter.
C'est un peu comme un sportif qui se voit finalement retirer une médaille pour cause de dopage. Le 28 juin dernier, la commune de Galargues-le-Montieux, dans le Gard, avait enregistré le record absolu de chaleur en France, 45,9 degrés. Mais les services de Météo France viennent de trouver mieux juste à côté, Vérargues, près de Montpellier, qui a atteint le même jour les 46 degrés. On espère que ça ne jettera pas un froid entre les deux villages. Et justement, il va à nouveau faire très chaud la semaine prochaine. Un nouvel épisode de canicule en approche, moins d'un mois après le précédent. On pourrait évidemment vous rappeler les conseils habituels, éviter toute activité physique sous le soleil, hydratez-vous régulièrement, etc. Mais on a aussi un conseil tout bête dans notre prescription culturelle du jour. Trouvez un endroit frais, installez-vous confortablement avec une boisson et quelques glaçons et regardez ces séries qu'Alexandra Hakoun vous recommande.
Deux séries avec des personnages de femmes incroyables, les deux sur OCS, La Servante Écarlate, troisième saison, dystopie toujours aussi douloureuse, et Big Little Lies, saison 2, avec une petite nouvelle au casting, Meryl Streep, formidable en belle-mère venimeuse qui ne perd jamais le nord.
Attends, je vais te tuer!
Est-ce que ça va, Céleste?
Oui.
Encore un cauchemar.
Donc, qui est-ce qu'il faut tuer?
Si vous l'avez raté, c'est la série de l'année, la britannique Years and Years sur MyCanal, mini-série percutante qui joue avec toutes nos peurs sur l'avenir. Emma Thompson est terrifiante en sosie de Marine Le Pen. Plus léger, What We Do in the Shadows sur MyCanal, petit bijou d'humour loufoque qui, à la manière d'un faux documentaire de télé-réalité, nous entraîne dans le quotidien d'une bande de suceurs de sang roumains exilés à New York, des vampires losers comme celui qui aspire l'énergie de ses proies par ses discours d'un ennui mortel, du grand n'importe quoi hilarant.
They've been half drunk. It's not hygienic.
Et pour une fois que Netflix produit une série française bien menée et drôle, ça s'appelle Family Business, avec Jonathan Cohen et Gérard Darmon. Alors que la boucherie familiale fait doucement faillite, Joseph, le fils, a une idée.
Le cannabis va être légalisé.
Et c'est ça ton idée géniale? C'est de devenir dealer?
Une innovation qui allait changer des vies. La boucherie Azan devient la boucherie Azan.
Et si vous n'avez pas eu le temps de noter tous ces conseils ou que vous en voulez quelques autres, eh bien ils sont tous à retrouver sur franceinter.fr. Allez, chose promise, chose due, on passe au Tour de France. Le journal du Tour, c'est avec vous Fabrice Rigobert, bonsoir.
Bonsoir.
Et on revient donc sur cet exploit de Julien Alaphilippe aujourd'hui.
Ovationné une première fois sur la ligne d'arrivée lorsqu'il a signé son deuxième succès sur le Tour après Épernay, Julien Alaphilippe a été de nouveau applaudi sur le podium protocolaire par le public de Pau à 27 ans. Il faut dire qu'il a sans doute signé sa plus belle victoire en jaune dans le dernier contre-la-montre du Tour. Parti en dernière position, le coureur de Saint-Amand-Montrond est passé en tête à tous les points intermédiaires pour tenir en respect le vainqueur sortant de la grande boucle, Geraint Thomas, et finir avec 14 secondes d'avance sur celui qui voulait lui ravir la première place, la joie de Julien Alaphilippe.
Il y a 100 ans, c'était le premier maillot jaune. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire, c'est moi qui le porte. Et forcément, c'est une grande fierté. C'est sûr que c'est une journée que je ne vais jamais oublier de ma carrière, de ma vie. Et je pense que aussi, je peux être fier de marquer mon nom et mon empreinte dans l'histoire de mon sport. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas imaginé quand j'ai commencé à faire du vélo. Donc, c'est vraiment une émotion spéciale.
Julien Alaphilippe, premier coureur français, vainqueur d'un contre-la-montre sur le Tour depuis 32 ans. Et Jean-François Bernard, 35 ans après la dernière victoire d'un Français en jaune dans un chrono, Laurent Fignon, pour le plus grand plaisir d'un public qui n'a désormais plus Dieu que pour ce champion à l'image de Jérôme.
C'est super, encore Alaphilippe qui fait le show. Déjà, le maillot jaune, ça fait une émulation. Donc c'est pour ça qu'il est à ce niveau-là. Quoi. C'est un vrai champion. On l'a vu cette année, il est numéro mondial et c'est le meilleur. On verra demain au Tourmalet s'il arrive à tenir. Quoi. Maintenant, c'est tout le monde derrière Alaphilippe, toute la France derrière Alaphilippe. Et puis on espère toujours ramener un maillot jaune à Paris, un Français. Quoi.
Au classement général, Julien Alaphilippe possède 1 minute 26 d'avance sur le vainqueur sortant du Tour, Geraint Thomas, battu aujourd'hui.
Ah oui, personne ne s'attendait à cela. Il a réalisé un chrono incroyable, donc c'est certain, il fait maintenant partie des favoris et bien sûr qu'il peut aller.
Coéquipier de Geraint Thomas, Egan Bernal a lui perdu sa troisième place au profit du Néerlandais Kruijswijk, troisième à 2 minutes 12. Bernal, cinquième maintenant, à plus de 2 minutes au classement général, Olivier.
Et puis Fabrice, il y avait aussi un autre Français qui a fait une très belle performance aujourd'hui.
Thibaut Pinot, le coureur de la FDJ, a fait mieux que limiter la casse, concédant seulement une trentaine de secondes à Geraint Thomas, 49 à Julien Alaphilippe. Thibaut Pinot.
Oui, c'est un beau chrono. Je sentais que j'avais de la bonne force, donc il me manquait un petit peu parce que...
J'ai pas eu d'oreillette de... C'était un peu déstabilisant au début, mais bon, après j'ai vu au deuxième intermédiaire, j'étais dans l'allure, donc ça allait. C'est vrai que j'en avais un peu marre des étapes de plaine là. On rongeait un peu le frein, donc voilà, j'avais envie de lâcher les chevaux. Et voilà, aujourd'hui c'est la première partie des Pyrénées, la première vraie bataille, on va dire. Donc voilà, je réponds présent et voilà, je pense à demain aussi.
Thibaut Pinot, 7e du classement général à 3 minutes 22 du maillot jaune. Romain Bardet a lui perdu plus de 2 minutes. Il est très loin au classement. C'est l'une des images de jour. La chute terrible après avoir accroché une barrière du Belge Wout Van Aert, vainqueur d'étape à Albi, plaie ouverte à la jambe droite à 1,5 km de l'arrivée. Il a été transporté à l'hôpital. Serge, un spectateur, était dans le virage où la chute s'est produite.
Il a pris le virage vraiment très court et puis il a chopé la barrière. Elle ne dépassait pas, elle était dans l'alignement, mais c'est lui qui a serré trop et il s'est chopé la cuisse là. C'est lui qui a trop serré. De voir cette plaie ouverte comme ça, là, c'est... la plaie était vraiment impressionnante. Hein.
Wout Van Aert contraint à l'abandon, sans doute contre, comme l'Allemand, Charman qui a aussi, lui, chuté, Olivier.
On l'oublie trop souvent aussi, il y a des femmes sur la route du Tour.
Oui, une course professionnelle a devancé cette étape contre la montre aujourd'hui sur la route empruntée par le peloton. La néerlandaise Marianne Vos s'est imposée. La championne de France sur route, Jade Vielle, était dans le peloton avec son beau maillot bleu-blanc-rouge.
C'est une grande championne qui l'emporte, hein, Marianne Vos. Après, moi, pour ma part, avec là, mon maillot, j'étais quand même pas mal encouragée. Presque tous les 10 mètres, il y avait des gens qui me soutenaient, donc c'était super. C'est sûr, on aimerait bien avoir un tour, peut-être pas la même appellation, mais ça nous permettrait d'être plus visible. Quand on est chez nous, ce qu'on regarde à la télé, c'est le Tour de France quand on parle du vélo, donc il manque cette référence.
Ouais. Et demain, le peloton continue sa route et passe au révélateur du Tourmalet pour la première arrivée au sommet des Pyrénées.
Et on vous retrouvera là-bas, évidemment. Fabrice Rigobert, merci pour le journal du Tour.
La météo avec les volets roulants Velux, la protection efficace en cas de forte chaleur ou d'orage, fabriquée en France. À retrouver sur velux.fr.
Alors pour la forte chaleur, c'est la semaine prochaine, et pour les orages, c'est cette nuit et demain, Sébastien Lias.
Oui, effectivement, avant la vague de chaleur la semaine prochaine, le pays va être balayé par une vague d'orages. Des orages vont glisser entre la Bretagne, la Normandie et le Pas-de-Calais entre cette nuit et demain matin. Et une autre perturbation orageuse va arriver sur l'Aquitaine cette nuit. Elle va se généraliser à tout le sud-ouest demain matin, puis se décaler vers le Massif central, le Lyonnais, la Bourgogne, la Champagne-Ardenne, la Lorraine et le Val-de-Marne l'après-midi. Ces orages déborderont ensuite vers l'Alsace, la Franche-Comté et le nord des Alpes en fin de journée. Avant les orages, la matinée sera bien ensoleillée sur l'est et l'après-midi, c'est la moitié ouest qui profitera de plus belles éclaircies. Les régions de la Méditerranée seront, elles, à l'écart avec beaucoup de soleil, même s'il faudra parfois attendre la dissipation des grisailles, notamment sur le Roussillon.
Mais ce sera mieux dimanche.
Oui, on aura encore quelques averses résiduelles en matinée entre l'Alsace et la Franche-Comté, mais ailleurs, le soleil sera déjà bien présent avec un ciel un peu plus variable entre l'intérieur de la Bretagne, les terres normandes, l'ouest parisien et les Hauts-de-France. Ces nuages vont d'ailleurs avoir tendance à se morceler l'après-midi, laissant les éclaircies s'imposer. Quelques nuages vont aussi fleurir au nord de la Seine et sur le massif central, les Alpes du Nord et l'est des Pyrénées, les bourgeonnements nuageux seront plus épais et donneront même des averses localement orageuses. Sur le reste du pays, l'après-midi restera largement ensoleillé. Un soleil qui va déjà faire remonter les températures qui afficheront 26 à 35 degrés avec 22 à 26 degrés près de la Manche. Mais c'est surtout lundi que les températures vont commencer à s'emballer avec le début d'une canicule sur de nombreuses régions.
Merci Sébastien Léas.